dans notre, c'est prêt? Nous continuons dans notre série de messages sur les mystères dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous connaissez ce petit passage de l'Apocalypse lorsque Jean se trouve face à un livre scellé de 7 sceaux et on donne le livre à plusieurs personnes et personne n'arrive à enlever les sceaux? C'est un livre qui reste fermé et Jean est angoissé dans sa vision et dit « Mais qui pourra ouvrir les sceaux? Qui pourra ouvrir le livre ?» et nous en faire comprendre la teneur. Et puis finalement, c'est le Seigneur Jésus qui arrive, l'agneau de Dieu, et qui ouvre les sceaux de l'Apocalypse, ces sceaux qui révèlent l'accomplissement du royaume de Dieu, l'accomplissement du plan de Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'ouvrir la Bible, d'essayer de la lire et de ne pas comprendre comme si elle était scellée, fermée? Et c'est ce dont on va parler ce soir en prenant cette parole de Jésus en Marc chapitre 4, verset 35. Non. Ça, c'est incroyable, je ne trouve pas le... J'ai noté Marc 4, 35, mais c'est pas ça. Donc c'est plutôt... Voilà, c'est ça. Marc 4, verset 10. Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. » Ici, le Seigneur dit, « C'est à vous, mes plus proches disciples, qu'a été donné de comprendre, de connaître le mystère du royaume de Dieu. » C'est sur ce mystère que nous allons parler. Mais auparavant, j'aimerais parler des paraboles. Qu'est-ce que c'est une parabole? Et quand Jésus parlait en parabole, il avait toute sa culture juive qui était là. D'abord, vous avez les premières paraboles qu'on trouve plus ou moins, qui sont les plus connues, c'est le livre des Proverbes. Les proverbes de Salomon sont en fait des mini-énigmes. Vous remarquez que dans les proverbes, il y a des choses qui paraissent très simples, mais qui sont souvent un peu compliquées. On se dit, mais qu'est-ce qu'il a bien voulu dire par ce proverbe? Ce sont des images de la vie quotidienne, mais avec un sens caché, et il faut se creuser un peu la cervelle pour comprendre le sens des proverbes. C'est pour ça que certaines personnes n'aiment pas les proverbes et disent... C'est trop fatigant, il faut réfléchir à chaque phrase. Mais c'est justement là le but des proverbes, c'est d'éveiller notre intelligence, notre intellect et surtout notre intelligence spirituelle. D'ailleurs, c'est Salomon qui écrit à un jeune homme, à son jeune fils, donc il veut que son jeune fils soit quelqu'un qui ait du plomb dans la tête. Quand on regarde la vie des fils de Salomon, il n'y a pas vraiment eu de grands résultats de ce côté-là. Et puis, il y avait aussi ce qu'on appelle, alors le terme n'est pas dans la Bible, mais ce qu'on appelle les midrashim, c'est-à-dire les midrash au pluriel. Le midrash, chez les juifs, c'est une étude, une explication, un commentaire du texte biblique. Et les rabbins, donc, faisaient des midrashim, et ils écrivaient aussi des commentaires. Mais les midrashim sont particuliers, c'est pareil, le sens est caché derrière une histoire. Donc, il raconte une histoire de la vie quotidienne et il faut trouver dans cette histoire l'explication du verset biblique. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout direct. Il faut arriver à trouver derrière, et c'est ce qu'on appelle la pensée un peu orientale, hein, la pensée qui n'est pas justement évidente, elle est un peu contorsionnée, et il faut trouver derrière le sens. Les paraboles, c'est la même chose. La parabole ne sert pas à expliquer la vérité, la parabole sert à cacher la vérité dans une histoire qui a l'air toute simple. D'ailleurs, le mot parabole en grec, hein, ça veut dire lancer au-delà, c'est-à-dire vous lancez l'explication plus loin, mais la vérité se trouve avant. Donc c'est un peu comme quand vous allez à la pêche, hein, vous lancez très loin, puis vous ramenez le poisson. Là, c'est pareil, la parabole va au-delà de la vérité. Et si vous restez à l'histoire de la parabole, vous n'allez jamais comprendre la vérité. Il faut creuser la parabole. Il faut dire, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Pourquoi il dit ça? Quel est le sens? Par exemple, dans les Proverbes, il y a cette histoire qui dit « Une femme belle et sans intelligence est comme un anneau d'or au nez d'un pourceau. » Donc, on peut imaginer facilement dans sa tête un pourceau avec un anneau d'or au nez. On voit très bien cette image, et c'est rigolo même, hein, mais l'anneau d'or avec le pourceau avec un anneau d'or, ça ne nous apprend rien. Ça ne sert à rien de savoir qu'un pourceau peut avoir un anneau d'or. Par contre, derrière cette vérité, il y a quelque chose. C'est qu'un pourceau avec un anneau d'or, ça veut dire, est-ce que c'est normal? Non. C'est pas normal. Normalement, un pourceau n'a pas un anneau d'or. Hein. Et les anneaux d'or, c'était pour les femmes. D'ailleurs, elles portaient des anneaux, hein, sur le nez. Les femmes orientales, les femmes, les reines et tout ça. Donc, pourquoi un pourceau aurait un anneau d'or? Alors, ça vous fait réfléchir. Ça vous dites, mais c'est pas normal. Et effectivement, il dit, une femme qui est belle, mais qui n'est pas intelligente, qui ne connaît pas Dieu, c'est pareil qu'un anneau d'or au nez d'un pourceau. Ça n'a pas lieu d'être, c'est malvenu. Et il faut qu'une femme belle soit surtout intelligente, soit aussi intelligente. La beauté toute seule n'est rien. Il faut l'intelligence. Mais vous voyez, on peut imaginer facilement le cochon avec son anneau d'or, mais ça ne nous avance à rien. Il faut creuser l'énigme. Et les paraboles que Jésus a racontées, c'est pareil. Ça a l'air simple, le grain de blé tombe en terre. On dit, bah oui, facile. Puis des fois le grain pousse bien, des fois il pousse mal. Ben oui, tout ça on connaît. Les agriculteurs, ils avaient l'habitude, hein, quand ils semaient, ils n'avaient pas les semeuses qu'on a aujourd'hui qui sont presque au centimètre près. Hein, ils faisaient à la main, c'était les femmes souvent qui semaient. Alors elles jetaient les graines du sac comme ça. Et puis ça tombait le long du chemin, les oiseaux pouvaient aller les manger. Donc tout ça c'était clair pour eux. Ils disaient, ah oui, on a tout compris. Sauf que derrière cette histoire de semer des graines, il y a une leçon profonde sur le fait que la parole de Dieu peut être reçue plus ou moins avec un cœur honnête ou pas. Et donc, quand Jésus parle aux paraboles, tout le monde pense le comprendre, mais en fait, peu de gens le comprennent. Et Jésus va expliquer les paraboles à ses disciples pour qu'ils comprennent. Et il leur dit, donc, ce qu'on a lu, « À vous, il a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, en dehors de notre cercle, ceux qui ne veulent pas en savoir plus, tout est en parabole, c'est-à-dire tout est en énigme. Ils croient comprendre, mais en fait, ils n'ont rien compris. » Alors, on peut se demander quand même, pourquoi Jésus cache les choses de cette façon? Est-ce qu'il n'est pas venu apporter la lumière, le Seigneur? C'est pas vrai? N'est-il pas la lumière du monde? Pourquoi dit-il, c'est presque violent, hein, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, c'est-à-dire qu'ils regardent, qu'ils voient, mais qu'en fait ils soient aveuglés, qu'ils écoutent, ils entendent les mots, mais ils ne comprennent rien aux mots qui sont dits. Un peu comme si vous écoutez, hein, une radio en langue étrangère, vous entendez des mots, des phrases, des sons, mais vous ne comprenez strictement rien. Pourquoi Jésus dit-il ça? Ici, il est en train de citer un verset d'Ésaïe. Mais on va lire la citation en Matthieu, chapitre 13. Alors là, c'est la même chose. Merci beaucoup. Voilà. C'est pourquoi, 13-13, je leur parle en parabole parce qu'en voyant, ils ne voient point, en entendant, ils n'entendent, ils ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, qu'on trouve au chapitre 6 d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux. Donc on voit, ce n'est pas tellement que Dieu veuille aveugler les gens, ce n'est pas que Jésus veuille cacher les choses, mais c'est que ceux qui l'écoutent, qui sont au dehors de son groupe, ne veulent pas voir. Ils ont endurci leur cœur, ils ont fermé leurs yeux, ils ne veulent pas voir la vérité en face. Ils veulent le Messie. Quand on regarde tous ceux qui entouraient Jésus, ils attendaient le Messie, ils attendaient le royaume. Ils sondaient les Écritures, même dit Jésus, hein, vous sondez les Écritures. Il faut voir comme les rabbins pouvaient étudier la Torah. C'était des heures et des heures et des heures pendant des années et des années. Et pourtant, tout en étudiant, tout en regardant, ils ne voyaient rien. C'est un peu ce que dit Paul, hein, dans l'Épître aux Corinthiens. Il dit, il y a un voile devant leurs yeux. Quand ils lisent la Bible, il y a un voile. Parce qu'il y a un certain endurcissement, ils ne veulent pas voir. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'ils ne veulent pas voir? Juste avant de dire ça, j'aimerais vous dire que si vous lisez ce même passage en Ésaïe 6, vous verrez qu'en Ésaïe 6, ça ne dit pas exactement pareil. Ça dit que leur cœur est comme la graisse. Alors que Jésus, quand il cite Ésaïe, il dit « leur cœur s'est endurci ». Et en fait, il semble qu'il y a une différence entre la Septante grecque, la traduction grecque, et le texte hébreu, et que la Septante dise bien que Jésus cite « leur cœur s'est endurci ». Voilà. Alors que dans le texte hébreu, on a l'impression qu'ils sont comme ça, c'est une fatalité. Voilà. Mais quand Jésus cite le passage, il dit bien « c'est eux qui ont fermé leurs yeux qui se sont endurcis ». Si on revient à Marc 4, et au verset 24, Jésus va nous donner des éléments intéressants pour comprendre les paraboles. Mais c'est sous forme d'énigme encore. Hein. Marc 4, 24, il leur dit encore, « Prenez garde à ce que vous entendez, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. » Alors, nous... Pékin moyen du 21e siècle, on lit ça, on ne comprend rien. La mesure, c'est ce qu'on utilisait au marché ou dans les marchés agricoles. On avait des mesures pour le grain. Donc, tu voulais trois mesures, on prenait cette mesure qui était la même pour tout le monde, qui avait le même volume. On vous donnait trois mesures de grain pour vous. Et donc, il dit, on vous mesurera avec la mesure que vous utilisez. Donc, cette parole est dans d'autres passages. Hein. Mais là, il l'applique aux paraboles. Il dit, on y ajoutera pour vous. C'est-à-dire, si vous utilisez une grande mesure, on vous donnera une grande mesure. D'accord ? Vous comprenez ça comme ça ? Plus vous prenez une grande mesure, une mesure abondante, plus on vous en donnera. Plus vous êtes radin avec votre mesure, moins vous aurez de choses. C'est ça que dit cette parole ici. On vous mesurera avec la mesure que vous utilisez et on y ajoutera pour vous. Donc, plus vous êtes radin, moins vous aurez de choses, plus vous êtes généreux dans votre mesure. Parce que quand on allait au marché, il y avait les commerçants, et ça se fait encore aujourd'hui, hein, ils vous mettaient la mesure, mais avec un petit tas au-dessus, quand ils vous aimaient bien. Et puis il y a ceux qui faisaient comme ça, pas un grain de plus. Et puis il y a ceux qui trichaient un peu, qui faisaient des petits trous dedans. Et Jésus est en train de dire, voilà, quelle mesure utilisez-vous? Maintenant, il faut comprendre de quoi parle-t-il. On a bien compris l'histoire de la mesure du grain, mais là, il n'est pas en train de nous parler du grain. Il est en train de nous parler des vérités du royaume, des paraboles. Il est en train de nous dire que plus on veut connaître, plus on veut obéir, plus on connaîtra. Et moins on veut obéir et connaître, moins on connaîtra. C'est tout aussi simple que ça. Plus on a soif de Dieu, plus Dieu va se révéler à nous. Plus on est radin dans la foi, c'est-à-dire plus on a un cœur rétréci qui simplement veut avoir la bénédiction de Dieu, mais sans plus, plus notre cœur va se rétrécir et notre foi se rétrécir, se racornir. Plus on veut connaître des choses, plus la Bible va s'ouvrir sous nos yeux. C'est un peu cette idée de la lumière. Plus vous acceptez la lumière de Dieu, plus Dieu va vous éclairer encore. Et c'est un peu ce qu'il dit pour les incroyants en Actes 17, 27. Je vais juste vous lire le verset. C'est lorsque Paul prêche à Athènes. Il parle donc à des païens et il dit ceci, Actes 17, 27. Dieu a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Étonnant, hein, cette phrase. C'est que Dieu n'est pas loin, est proche de tout le monde. Celui qui a un cœur honnête et sincère, il peut trouver la vérité en Jésus-Christ, peut trouver le Seigneur. Dieu est tout près. Et il veut qu'on le trouve en tâtonnant, c'est-à-dire, quand on tâtonne, c'est qu'on est un peu dans les ténèbres, on ne voit pas bien. Alors on tâtonne sur les meubles pour essayer de se repérer. Et le Seigneur nous donne des poteaux, hein, des éléments pour nous repérer. Et il nous donne une première lumière. Alors, qu'est-ce que ça peut être une première lumière? Ça peut être un chrétien que vous rencontrez et qui vous dit, tu sais, c'est merveilleux d'être sauvé. Et vous n'avez jamais entendu parler du salut. Vous dites, d'être quoi? D'être sauvé. Moi, je sais que je suis sauvé. Ah bon? Et puis, vous en restez là, c'est une première lumière. Et si vous allez plus loin, si vous dites, mais qu'est-ce que c'est être sauvé? Pourquoi il dit qu'il est sauvé? Moi, j'aimerais être sauvé. Vous allez avoir une seconde lumière. Quelque chose qui va venir après. Mais si vous dites, oh, mais pour qui il se prend et qu'est-ce que ça veut dire? Je m'en fiche, ça ne m'intéresse pas. Ça va se fermer. Et vous allez vous endurcir un peu plus. Peut-être qu'un jour, Dieu enverra une deuxième lumière, toujours la même, et on verra si vous vous ouvrez ou si vous restez fermé. Mais plus vous vous fermez, plus vous serez fermé, et moins Dieu va se révéler à vous. Ça, c'est pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Mais pour un chrétien, ça peut aussi arriver. Un chrétien qui ne veut pas obéir à Dieu va rester bloqué toute sa vie chrétienne sur le point où il refuse d'obéir. Il y a des gens qui sont restés bloqués 20 ans. Ils n'ont pas avancé d'un pas dans leur vie chrétienne pendant 20 ans parce qu'ils n'ont pas obéi. Et chaque fois, le Seigneur revient, le Saint-Esprit, hop, voilà, tu as ce péché, tu as cette désobéissance. Et bien, non, 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 non. Quel temps perdu, quel gâchis. Et ces personnes-là, la Bible devient de moins en moins parlante, puisque quand ils lisent la Bible, le Saint-Esprit relève toujours les mêmes choses. Et la personne, elle en a marre au bout d'un moment, puisqu'elle ne veut pas céder. Alors, la Bible devient un livre sec pour elle. La lumière s'amenuise chez ce chrétien. C'est terrible, il y a des chrétiens qui sont dans les ténèbres, hein, spirituelles. Plus vous fermez vos yeux, plus vous sombrerez dans les ténèbres. Plus vous ouvrez vos yeux et votre cœur à Christ, plus on vous donnera. Et puis il continue en Marc 4, 25. C'est la même idée qui continue. On donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alors là encore, si vous prenez au premier degré, c'est totalement incompréhensible et illogique. Celui qui n'a pas, on va lui enlever ce qu'il a. Oui, mais s'il n'a pas, comment peut-on lui enlever ce qu'il n'a pas? Donc, en apparence, c'est une phrase incompréhensible, c'est une énigme, comme toujours. Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? C'est le même sens. Celui qui a, il aura encore plus. Celui qui n'a pas, celui qui ne veut pas avoir, non seulement il ne va pas avoir, mais il va perdre encore. Prenons l'exemple de la mémoire. Hein, on est tous concernés. Si vous vous dites, moi, ce que je vais faire, je ne vais pas te faire trop travailler ma mémoire, parce que sinon, ça va l'user. Donc, je ne vais pas trop réfléchir, je ne vais pas trop apprendre de trucs, je ne vais pas trop lire. Je vais juste entretenir mon cerveau avec de la belle musique et c'est tout. Est-ce que vous croyez que votre mémoire va augmenter? Qui est-ce qui va faire augmenter sa mémoire? C'est celui qui l'a fait travailler. Celui qui apprend des trucs par cœur sans arrêt, il va développer sa mémoire comme un muscle. Hein? C'est pareil pour le physique. Si vous dites, je vais rester couché comme ça, mes muscles seront moins fatigués, en fait, vous allez perdre vos muscles. Si vous courez, si vous faites de l'exercice, si vous travaillez dur, vous aurez un corps plus en forme. Et c'est un peu la même chose dans le domaine spirituel. Plus vous progressez, plus vous en voulez, si on peut dire, hein, plus Dieu va vous en donner. Plus vous êtes un chrétien tiède qui dit, je pense que j'en sais suffisamment, je pense que je suis arrivé à un bon niveau de chrétienté, n'est-ce pas? Je connais la plupart des cantiques, je connais les grands livres de la Bible, je vais à l'église tous les dimanches, je sais prier, plus ou moins. Je pense que là, j'ai mon diplôme. J'ai été baptisé par immersion dans une bonne église baptiste, donc ça y est, psh, tampon, je suis un bon chrétien. Si vous lisez les Écritures, ce n'est pas ça du tout être un bon chrétien. Être un disciple, c'est quelqu'un qui avance, qui se donne, qui se consacre au Seigneur. Plus on se consacre, plus le Seigneur nous touche. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, comme moi, mais plus j'ai de travail à faire, plus j'en accomplis. Moins j'ai de travail à faire, moins j'en fais. Vous êtes comme ça aussi? Hein, je pense qu'on est, c'est un peu humain, ça. Et quand je suis débordé, c'est là que j'arrive à faire le plus. Parce que c'est comme ça, c'est la nature humaine. Et dans le domaine spirituel, c'est pareil. Quand on cherche des choses, et tous les mercredis, nous parlons du réveil spirituel à travers Mike et ses lectures de James Stewart. Et ça doit nous donner envie d'aller plus loin avec le Seigneur. De ne pas rester là dans notre vie chrétienne, mais il y a des océans à côté desquels nous passons. Nous sommes là avec notre petit robinet, notre petit bol d'eau, et à côté, il y a un océan que Dieu veut nous donner. Et nous, on est là avec notre bol, on dit, ah, oh, c'est merveilleux, j'ai un bol d'eau. Mais va puiser dans la mer. Et le Saint-Esprit est une mer, un océan de bénédictions, de choses extraordinaires. Quand dans Éphésiens, il dit, hein, que vos yeux s'ouvrent, et il dit, afin que vous sachiez toutes les bénédictions en abondance. Il suffit de relire Éphésiens, tout le temps ça parle d'abondance, ça déborde, c'est même au-delà de ce que nous pensons ou imaginons, c'est-à-dire tout ce qu'on peut imaginer sur les choses que Dieu peut nous donner, c'est tout petit par rapport à ce que Dieu peut vraiment nous donner spirituellement. Est-ce que nous sommes un chrétien qui s'est arrêté d'avancer? Celui qui croit avance, celui qui n'exerce pas sa foi perdra le peu de foi qu'il avait. La foi est faite pour s'exercer. Si vous dites j'ai la foi et que vous ne l'utilisez jamais, votre foi va s'étioler, vous allez finir dans le doute profond. Mais si vous dites j'ai la foi, donc, quand je suis dans telle situation, je vais croire au Seigneur. J'ai la foi, donc je suis malade. Est-ce que je vais pleurer? Est-ce que je vais paniquer? Non, j'ai la foi, donc je vais commencer par prier. Après avoir prié, je vais demander au Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui te déplaît, qui te dérange, qui est un péché, Seigneur? Quand tout ça est réglé, je vais voir le médecin et je compte sur le Seigneur de diriger le médecin et les médicaments. Je marche par la foi. La foi est dans le concret. Si je n'exerce pas ma foi dans la prière, dans l'évangélisation, dans les épreuves, ma foi va devenir un truc totalement théorique et va disparaître. Mais maintenant, nous en arrivons finalement au mystère du royaume. Qu'est-ce que c'est ce mystère du royaume? Je vous ai parlé des paraboles avant pour préparer justement les choses. C'est que les Juifs qui entouraient Jésus, pas les proches disciples, hein, mais les Juifs de Judée, attendaient le royaume de Dieu. Ils parlaient du royaume de Dieu. Mais ils attendaient un royaume physique, terrestre, visible. Ils attendaient un Messie glorieux sur son cheval qui allait bouter dehors les Romains et qui allait faire d'Israël la nation supérieure qui allait dominer le monde. Voilà pour eux ce que c'était le royaume. Et eux, ils s'attendaient à être les grands chefs avec le Messie. D'ailleurs, même les 12, hein, dans les 12. Un jour, il y a la maman d'un des 12 qui vient voir Jésus qui dit « Écoute, Seigneur, j'ai une requête à te faire. » Alors le Seigneur, plein de patience, qui savait déjà ce qu'elle allait lui demander, mais qui dit « Mais parle, vas-y. Est-ce que tu pourrais pas faire que mes fils soient l'un à ta droite et l'autre à ta gauche ? C'est-à-dire que quand tu vas entrer dans le royaume, dans le règne, que mes fils soient tes premiers ministres et ministres de l'intérieur, là, les plus proches du pouvoir ?» Voilà leur idée du royaume, le pouvoir, la domination, le règne. Et c'est vrai que les prophètes parlent du règne du Messie. Mais Jésus, avant de régner, devait faire quelque chose, il devait mourir pour nos péchés. Il ne peut pas régner tant qu'il n'a pas triomphé à la croix. Le règne et la domination lui seront donnés quand il aura triomphé à la croix et qu'il aura ressuscité. Et ça, beaucoup de Juifs n'ont pas saisi cette vérité. Et quand Jésus leur a dit, ils n'ont pas voulu l'entendre. Et c'est pour ça que Jésus leur a dit, pour vous, c'est des paraboles. Vous entendez des histoires, mais vous ne comprenez rien. Quand il leur raconte l'histoire du vigneron, du propriétaire de vigne, qui a des ouvriers qui travaillent dans sa vigne et qui demandent le fruit et qu'il renvoie tous les serviteurs, sans rien lui donner, puis qu'un jour il dit « Je vais envoyer mon fils, au moins mon fils, ils l'écouteront et ils tuent son fils. » Donc ça, c'est une parabole qu'il raconte, la parabole du vigneron. Mais je pense qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas vu que le fils, c'était Jésus et qu'eux, ils étaient les ouvriers qui tuaient le fils. Ils n'ont pas réalisé. Ils ne voulaient pas voir la vérité en face. Qu'est-ce que Jésus dit sur le royaume ? Luc 17, verset 20. Qu'est-ce que c'est le mystère du royaume ? Parce que, comme nous l'avons vu dans tous les messages, les mystères du Nouveau Testament sont révélés, ne restent pas cachés. Luc 17, 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus « Quand viendrait le royaume de Dieu ?» Il faut reconnaître que la traduction « royaume de Dieu » nous empêche de bien saisir. C'est le règne de Dieu. C'est plus clair, en tout cas pour moi, de penser au règne. Royaume, ça peut être un état. Là, c'est quand Dieu va régner. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas, « Il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Et même il dira ailleurs, « Il est en vous. » Le règne de Dieu, il est en vous, au milieu de vous. C'est Jésus, en fait, quelque part, le règne de Dieu. C'est l'Esprit de Jésus quand on le reçoit dans son cœur. Les chrétiens sur la terre ne sont pas appelés à régner. Nous ne sommes pas appelés à avoir un État et à régner sur les rois ou sur les présidents ou sur le monde. C'est Christ qui va faire ça quand il reviendra la deuxième fois. Nous avons le règne de Dieu dans notre vie. Les Juifs n'avaient pas compris ça, c'est pour ça que Jésus leur a dit les paraboles du royaume. Il leur a dit, par exemple, le bon grain, ce qui est important dans le royaume de Dieu, ce n'est pas d'être fort ou d'être... C'est d'avoir un cœur honnête qui reçoit bien la parole. Voilà la parabole du grain et des plusieurs terrains. C'est ça la vérité qui sort de ce passage. Mais les Juifs ne pouvaient pas entendre sa vérité parce que le cœur, l'intérieur, ça ne les intéressait pas. Ce qui les intéressait, c'était l'apparence d'être bien habillé, d'avoir les téphilines, d'avoir les vêtements qu'il faut, les choses autour de la main, du front, de faire des prières en public devant tout le monde pour que tout le monde voit bien qu'ils étaient spirituels, de donner la dîme en faisant du bruit. Schling, schling, schlong. C'était ça qui les intéressait, l'apparence. Et nous aussi, hein, parfois, nous tombons dans ce piège. Nous regardons les chrétiens à leur apparence, ou nous nous jugeons à notre apparence. On dit, moi, je suis bien habillé à l'église, j'ai l'air pieux, je prie très bien quand je prie, vraiment, je parle un français impeccable. Ce n'est pas ça, un chrétien, c'est dans le cœur que ça se passe, dans l'obéissance. Israël, en fait, a rejeté Jésus et ses paroles. Ils ont rejeté le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Et donc, ce royaume a été différé, quelque part. Si vous lisez Matthieu 21, 43, Matthieu 21, 43, alors, verset 42 pour le contexte. « Jésus leur dit, c'était après la parabole du vigneron, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle ? C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Étonnant ça, hein ? Il dit aux Juifs, on vous enlève, Dieu vous enlève le royaume de Dieu. Et il le donne à une nation. C'est qui ? Aux nations, aux non-juifs, en fait. Hein ? Là, il parle du règne de Dieu, justement. Et le règne de Dieu, à travers l'Évangile, hein, a été offert aux nations après que Israël ait rejeté dans son ensemble, le Messie. Mais tout ça, Dieu l'avait prévu, évidemment. Mais si vous regardez dans les évangiles, au départ, Jésus envoie les disciples, deux par deux, chez les Juifs uniquement. Et au bout d'un certain temps, il dit, « Maintenant, vous allez parler à tout le monde, c'est-à-dire aux non-Juifs aussi. » Et là, il dit, le royaume vous sera enlevé. » Ça ne veut pas dire qu'Israël est retiré du plan de Dieu, hein. Pas du tout dire ça, mais ça veut dire que désormais, le règne de Dieu n'est pas que pour Israël, parce que dans les prophéties, c'est Israël qui règne avec Dieu. Hein. Maintenant, nous régnerons aussi. Dans l'Apocalypse, c'est dit, hein, nous sommes sacrificateurs et nous régnerons avec Christ dans son royaume. Nous, les non-juifs, je veux dire, qui ont cru en Jésus. Et donc, le règne de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui frappe les regards. Ce n'est pas des belles églises, des cathédrales, ce n'est pas des beaux costumes. Le règne de Dieu, c'est est-ce que Dieu règne dans mon cœur ? C'est ça le mystère du royaume de Dieu. C'est un mystère parce que, encore une fois, les Juifs ne comprenaient pas comme ça le règne de Dieu. Et nous avons besoin d'apprendre que ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est l'obéissance. Rappelez-vous les paroles du prophète Samuel. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et il dit aussi que la désobéissance est pire que la divination, que l'occultisme. Hein? Donc aux yeux de Dieu, désobéir est pire que faire de l'occultisme. Hein? Est-ce que vous imaginez en tant que chrétien faire un pacte avec le diable, consulter des médiums, des esprits pour avoir des réponses? Vous imaginez faire ça? Non. Et désobéir, est-ce que vous imaginez désobéir? Oui, hélas. Eh bien, aux yeux de Dieu, c'est pire. Et obéir, c'est plus important que de sacrifier sa vie. Nous, on a cette idée, hein, Cet homme ou cette femme, il a tout quitté, il est allé dans un pays et il est mort. Voilà, c'est ça la sainteté absolue, c'est ça que Dieu me demande. Si je ne fais pas ça, de toute façon, je suis un chrétien de seconde zone. Non, cette personne avait cet appel de tout quitter, d'aller dans ce pays étranger, de mourir là-bas, en missionnaire. C'était son appel, mais vous, ce n'est pas forcément votre appel. Ce n'est pas ça que Dieu vous demande. Qu'est-ce qu'il nous demande à nous, à chacun ? D'obéir. Il dit, ce qui compte hein, d'un serviteur, c'est qu'il soit fidèle. Ce qu'on demande à un serviteur, c'est qu'il soit fidèle. Et qu'est-ce que dira le Seigneur quand on arrivera au ciel? C'est bien bon et fidèle serviteur. Il ne dira pas à Emmanuel Bozzi, c'est bien, tu as été un pasteur vraiment efficace. Non. Ça n'a aucun sens dans le royaume de Dieu. Ce qui compte pour le Seigneur, pour mon jugement à moi, la façon dont Dieu va me juger, c'est est-ce que j'ai obéi à la lumière que Dieu m'a donnée dans l'Écriture? Est-ce que j'ai obéi à la lumière du Saint-Esprit? Lorsque le Saint-Esprit me parle, est-ce que j'ai obéi? C'est pas ce que j'ai accompli pour Dieu. Et ça, c'est pour nous tous, chers amis. Ne vous comparez pas aux autres. Vous avez votre appel, votre commandement à obéir. Suivez la parole de Dieu, suivez les choses. N'essayez pas de ressembler à un chrétien spirituel. N'essayez pas d'avoir l'air spirituel. Soyons sincères, fidèles, obéissants. C'est ça le mystère du royaume. Et quand on est comme ça, les choses spirituelles s'ouvrent. Et c'est pas qu'on fait des progrès, mais on fait des bons dans la vie chrétienne. Quand on est rempli du Saint-Esprit, parce que quand on est obéissant, on est rempli du Saint-Esprit. Je dirais que c'est automatique. Le Saint-Esprit remplit le cœur de quelqu'un qui est obéissant. Et quand on dit qu'il remplit, il ne faut pas imaginer un bocal qu'on remplit d'eau. Parce que un bocal, il a sa contenance, et puis quand il est rempli, il est rempli. Le Saint-Esprit, il peut nous remplir de plus en plus. C'est-à-dire, il n'a jamais fini de nous remplir. On n'est pas un bocal, hein, que le Saint-Esprit remplit. Et donc, plus on obéit, plus le Saint-Esprit nous remplit. Et plus le Saint-Esprit nous remplit, plus il se passe des choses extraordinaires, et pas forcément, encore une fois, spectaculaires, hein, mais des choses extraordinaires dans notre compréhension de l'Écriture, dans les fruits, dans les réponses aux prières. Dans chaque fois qu'on ouvre la bouche, il se passe quelque chose, le chrétien est encouragé, l'inconverti est secoué, notre famille ressent l'amour de Dieu. En 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, il dit, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ce n'est pas des choses que Dieu a préparées pour ceux qui sont des bons chrétiens, pour ceux qui vont à l'église, pour ceux qui... C'est pour ceux qui l'aiment. Quand on aime le Seigneur, on lui obéit. Et quand on lui obéit, Dieu nous révèle des choses profondes du cœur de Dieu. Comment se fait-il qu'Abraham était si proche de Dieu? Que Dieu lui a révélé des choses extraordinaires, il faut reconnaître. Dieu lui a dit, je vais détruire Sodome et Gomorre. Il n'a pas dit à n'importe qui, il a dit à Abraham. Pourquoi il l'a dit à Abraham? Parce qu'Abraham était l'ami de Dieu. Parce que quand Dieu a demandé quelque chose à Abraham, Abraham l'a fait. Dieu a dit, sacrifie ton fils, ton unique. Il a dit, d'accord, il est parti sacrifier son fils, son unique. C'est ça qui fait d'Abraham quelqu'un d'unique, hein, c'est qu'il avait une relation d'amour avec Dieu profonde, d'obéissance. Ce qui fait que nous ne sommes pas des Abraham, c'est parce que nous ne sommes pas prêts à obéir autant. Nous n'avons pas cet amour, cette fidélité qu'il avait, mais il ne tient qu'à nous d'avoir cette obéissance envers Dieu. Et quand on obéit à Dieu, eh bien, on n'est pas déçu. Obéir à Dieu, ce n'est pas quelque chose de pénible, ce n'est pas quelque chose d'horrible. Il ne nous demande pas des choses abominables. Ça, c'est Satan qui veut nous le faire croire. Quand on obéit à Dieu, on est rempli du Saint-Esprit. Et là, nos yeux s'ouvrent sur des choses qu'on n'imaginait même pas. Que le Seigneur ouvre nos yeux spirituels et qu'il nous donne de connaître le mystère du royaume. On va terminer en chantant la dernière.